Bonsoir à tous. 20 ans après sa création, la Chrysalide doit déménager. Le bâtiment qui abrite l'institution de soins palliatifs à La Chaux-de-Fonds coûte trop cher et n'est plus aux normes. L'annonce faite il y a 15 jours par l'hôpital neuchâtelois dans le cadre de ses mesures d'économie a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup craignent que des compétences précieuses soient perdues et que les personnes en fin de vie et leur entourage ne disposent plus d'un lieu adapté pour passer leurs derniers jours. Cela dit, le Conseil d'État neuchâtelois s'est voulu rassurant hier. Les prestations seront maintenues et ne seront pas déménagées dans la précipitation. Alors pour mieux comprendre quels sont les enjeux liés à l'accompagnement de personnes en fin de vie, on a le plaisir d'accueillir Rosette Poletti. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Les romans vous connaissent très très bien. Ils vous lisent chaque semaine dans le Matin Dimanche depuis plus de 30 ans. Vous êtes infirmière de métier spécialisée notamment dans les soins palliatifs. Vous formez d'ailleurs de nombreux bénévoles dans ce domaine. Alors Rosette Poletti, le gouvernement neuchâtelois se veut rassurant. Pas question de supprimer les soins palliatifs, mais de les déplacer ailleurs dans un lieu qui reste à définir. Est-ce que vos craintes sont dissipées?
Oui, enfin moi je constate qu'il y a un intérêt, qu'on veut garder ce fleuron des hôpitaux neuchâtelois, parce que c'est vrai que la Chrysalide dans 20 ans, elle est devenue une référence largement connue, avec des gens qui y ont travaillé, qui sont des pionniers dans ce domaine, comme M. Fonvis, Mme Pécaud, le Dr Gromont, ce sont des gens qui ont fait vraiment partir les soins palliatifs dans le canton de Neuchâtel.
Et qu'on comprenne mieux alors, qu'est-ce qui fait de la Chrysalide ce fleuron dont vous parlez? Qu'est-ce qui doit à tout prix être conservé?
Ce qui doit être conservé, en fait, c'est les conditions dans lesquelles les soins pouvaient se donner là-bas. Il y a toujours eu des équipes bien soudées, avec aussi peu de hiérarchie que possible, de façon à ce que l'information passe bien, qu'il y ait une communication positive. Il y avait une formation permanente, toujours une recherche de soutien pour les gens qui y travaillaient. Et puis, on s'est aussi occupé là-bas des endeuillés, des proches de ces personnes. Et ça pouvait se faire d'une façon assez personnalisée, parce que on pouvait vraiment se centrer sur ces personnes et on n'était pas en quelque sorte gêné par de grands règlements qui sont faits pour de grandes institutions.
Rosette Poletti, l'hôpital neuchâtelois doit, vous le savez, hein, à tout prix faire des économies. Il est question ici de plus de 700 000 francs rien que pour cette année. Est-ce que vraiment il est nécessaire de garder, si vous me permettez, une maison de maître pour garantir de bons soins palliatifs?
Non, je ne pense pas que c'est nécessaire de garder une maison de maître. Bien sûr, c'était magnifique. Les gens qui ont pu y passer leur dernier moment le disaient alors qu'ils étaient encore là-bas, et leur famille l'a souvent dit après. C'était un endroit magnifique. Mais ce qui est nécessaire, c'est que où que ce soit maintenant reconstruit ou aménagé, cette possibilité de ne pas être pris dans un grand bâtiment où on est obligé d'avoir des normes qui concernent tout le monde. Par exemple, dans une unité de soins palliatifs, il faut que les proches puissent y venir n'importe quand. Il faut pouvoir les aménager quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent passer peut-être la dernière nuit ou les dernières nuits avec la personne. Il faut pouvoir avoir la souplesse de donner à manger à quelqu'un en dehors des heures officielles de repas. Il y a toutes sortes de choses qui sont nécessaire pour justement permettre à ces personnes de vivre comme elles le vivaient si bien à la Chrysalide, leurs derniers jours.
Et ça,
ça peut se faire ailleurs, mais
voilà.
C'est l'esprit qui doit rester.
Mais donc ça, ces prestations dont vous parlez, le milieu hospitalier est moins capable de les fournir. C'est moins adapté pour la fin de vie.
C'est-à-dire que ça dépend où ça se trouve, mais dans un hôpital, dans un grand hôpital, on est obligé d'avoir des normes et puis de demander à tout le monde de vivre d'après ces normes. Et les soins palliatifs, c'est quand même quelque chose de spécial. Ce sont les derniers moments d'une personne. Et c'est important de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire pour elle sans se préoccuper trop de savoir si c'est permis, c'est légal ou je ne sais pas quoi.
Quand vous parlez de normes, qu'est-ce que vous entendez par là, qu'on comprenne mieux?
Mais par exemple, je pense spécialement à la présence des proches. Permettre qu'à n'importe quel moment ils puissent être là, qu'à n'importe quel moment ils puissent être dans cette chambre, aménager les choses pour que peut-être la personne puisse avoir quelqu'un à côté d'elle. Donc souvent ça veut dire des chambres à un lit, des possibilités pour ces personnes de rester là, des possibilités d'être soutenues elles aussi. Et ça veut dire avoir peut-être une dotation aussi légèrement supérieure à la moyenne dans un hôpital. Avoir l'accueil de bénévoles, préparation de ces bénévoles. Vraiment faire tout ce qu'on peut et qui n'est pas toujours possible de la même manière dans un grand hôpital.
Pour vous, c'est important de pouvoir localiser ces prestations, ce savoir-faire, pour aussi former des personnes qui pourront aller, le cas échéant, sur le terrain.
Oui, c'est vrai que le but de tous ces lieux de soins palliatifs, c'est pas que toutes les personnes en fin de vie meurent là, on sait bien que c'est pas possible, mais c'est d'être des lieux où on a une excellence dans ce type de soins qui peut être démontré, où il peut y avoir des stagiaires qui viennent, des stagiaires médecins, des stagiaires soignants, des gens qui viennent voir comment on peut faire, et puis qui apprennent de façon à pouvoir introduire la majorité de ces concepts ailleurs dans toute la mesure du possible.
À l'heure où de plus en plus de monde souhaite mourir à domicile, avec l'aide notamment de fondations comme Exit, à l'heure où aussi on parle de soins palliatifs souvent en termes d'unités mobiles, est-ce que vraiment des lieux physiquement établis comme la chrysalide seront toujours aussi nécessaires ?
Moi, je pense que ce sera toujours aussi nécessaire comme lieu de formation, d'enseignement et de recherche. Et puis ensuite, à partir de cet endroit-là, qui reste une référence, qui reste un lieu de conseil, où on peut trouver de l'aide dans certains moments, à partir de là, il y a des unités mobiles qui se développent et ces unités vont aider ceux qui œuvrent à domicile pour donner l'aide nécessaire pour que le concept des soins palliatifs soit applicable partout et bien sûr à domicile aussi. Mais dans tous les pays où j'ai travaillé en soins palliatifs, le lieu de soins palliatifs sert de lieu de référence, de lieu où on peut voir comment ça fonctionne, se former pour pouvoir aller étendre ceci à l'extérieur. En fait, c'était dans les mandats de la chrysalide. Il y avait des stratégies qui sont censées durer de 2017 à 2027, et c'est justement renforcer cette sensibilisation aux soins palliatifs, tant parmi les soignants publics, etc. Ça veut dire avoir un lieu, une possibilité de disséminer ce savoir.
Vous qui formez des bénévoles à l'accompagnement en fin de vie, quelle est la première chose que vous devez leur apprendre ? Quelle est la prise de conscience que l'on doit avoir dès qu'on parle d'accompagnement en fin de vie ?
C'est de remettre en question l'idée qu'on a qu'il faut absolument faire quelque chose et dire quelque chose. Peut-être que ce qu'ils apprennent de plus inattendu, c'est que l'essentiel, c'est d'être et d'avoir une capacité de présence calme et une capacité d'écoute. C'est ce que demandent le plus les personnes en fin de vie. Elles n'ont pas besoin de conseils, elles n'ont pas besoin qu'on fasse sans cesse des choses, mais souvent elles demandent d'être simplement accompagnées par quelqu'un qui a la capacité d'être là avec, je dirais, avec sollicitude et compassion, sans forcément chercher à faire ou à dire des choses.